plus simple. Hein. Voilà.
Bon, alors je travaille au Portugal, Jacques de je travaille au Portugal et mon collègue Jacques de Silva et Marlène de Silva, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui parce qu'elle est tombée hier, il y a eu un petit accident, mais donc on va dépasser, elle est avec nous en présence ici pour cette présentation. Nous travaillons donc au Portugal, nous avons fait des études en Belgique pour le cas des collègues et en France j'ai fait mon doctorat à Paris 3 et donc j'appartiens au CEDICLEC gentiment à travers l'invitation qui m'a été adressée par Christian Puren et ce qu'on va présenter ici c'est une communication qui est dans le cadre d'une des lignes de recherche qu'on développe sur l'évolution de l'enseignement du français au Portugal. Et donc, d'une part, nous avons commencé depuis un certain nombre d'années à analyser les instructions officielles, les programmes, les manuels et les pratiques des enseignants. En essayant de répondre à la question, quels sont les déclencheurs d'innovation? À un certain moment, c'était les documents du Conseil de l'Europe, notamment Threshold Level et les niveaux seuil. En quelle mesure est-ce qu'ils ont provoqué des innovations? Et bien évidemment, on a commencé à analyser toute cette évolution, donc depuis les méthodes directes, méthodes audiovisuelles, approches communicatives, etc. Et bien, la question maintenant qui s'impose, c'est en quelle mesure le cadre européen de référence a provoqué des changements dans les pratiques des enseignants, dans les instructions officielles et dans les manuels pédagogiques. Donc, c'est essayer de trouver des cohérences ou, au contraire, des manques de cohérence parce que, comme vous verrez, il y a beaucoup de choses, de problèmes qui se posent en ce qui concerne les cohérences qu'on trouve en classe et quand on lit les instructions officielles, c'est de là qu'on est parti. Donc, on a fait, dans le cadre de cette présentation, nous allons nous intéresser surtout, axer notre attention sur les questions des instructions officielles des différentes langues étrangères qui sont enseignées au Portugal. Et je passe la parole à mon collègue Jacques de Silva.
Notre recherche a pour base une perspective didactologique. Le corpus documentaire est composé de registres didactographiques, c'est-à-dire des programmes d'enseignement, ce qu'on appelle plutôt les instructions officielles, mais au Portugal, le titre officiel, c'est la dénomination officielle des programmes d'enseignement, de quatre disciplines, d'allemand, espagnol, français et anglais, de l'enseignement secondaire. Le corpus textuel de base est composé par 4 fois 6 programmes de séries différentes, mais ils peuvent être résumés à un seul programme puisque les instructions officielles, la partie centrale de chaque programme est commun. Donc on travaille sur le même texte une seule fois. Donc nous avons en principe un corpus textuel utile de 4 textes. Au niveau de la conception de l'objet discipline dans les programmes, donc la discipline langue, ce qu'on peut voir, c'est que, d'après les fréquences des lexèmes, des termes, nous trouvons des références pour le mot langue, culture, langue et culture, mais langue, culture avec un trait d'union, non. En termes de synthèse, ce que l'on vérifie, c'est qu'il y a donc une prépondérance dans tous les programmes de la discipline comme la discipline de langue. La culture y est, mais complémentaire. Le concept de langue et culture aussi, on va en travailler, mais le concept de langue, culture avec le trait d'union n'existe pas. Même si dans la bibliographie, il y a des références avec ce terme. Le traitement définitoire de ce lexème a permis de vérifier qu'il n'y a pas dans les programmes de définition essentielle, c'est-à-dire de nature intrinsèque des lexèmes, des termes, dans ce cas. Il n'y a pas non plus de définition conceptuelle dans les programmes de ces mots. Ce que nous avons, ce sont surtout des définitions de type structural, c'est-à-dire l'énonciation des composantes de l'objet et des relations de ces composantes. Alors, au niveau du programme d'allemand, par exemple, on vérifie que la langue est présentée comme un ensemble composé de phrases, de morphosyntaxe et de morphologie, et que la culture est définie comme une composante socioculturelle, qui a pour base le concept de domaine de référence. Ça veut dire que on reconnaît que ces deux éléments sont indissociables et qu'ils doivent être développés d'une façon intégrée, mais de toute façon, ce langue et culture est plutôt une vision dichotomique, c'est-à-dire recto-verso d'une feuille de papier pour l'essentiel. Le programme d'espagnol définit la langue comme un ensemble de contenus linguistiques et la culture comme un ensemble de situations et de thèmes culturels. On dit aussi que les deux sont indissociables, mais que c'est la vision plutôt ethno-linguistique, ça veut dire que la langue supporte et véhicule la culture, et la culture est supportée et véhiculée par la langue, donc un système d'équivalence. Donc c'est aussi une vision dichotomique plutôt qu'une vision consubstantielle. Le programme d'anglais définit la composante langue comme aussi un ensemble de mots, de phrases, de prosodies, d'aspects morphosyntaxiques, phonologiques, lexico-sémantiques, et la langue... pratiquement il n'y a pas de définition structurelle, on dit simplement qu'elle se divise en domaines de référence. En termes pratiques, c'est pratiquement des thèmes dans les programmes. Donc, en termes de synthèse aussi, le programme d'anglais dit que la dimension socioculturelle se divise en domaines de référence, tandis que la langue comprend le mot, la phrase et la prosodie. Il y a ici aussi une différence, non pas une convergence ou une intégration totale. Le programme de français dit que la langue sont des contenus morphosyntaxiques, lexicaux, phonologiques, en relation d'interdépendance, et la culture, des savoirs culturels, des aspects géographiques, économiques, etc., des comportements communicatifs et des valeurs caractéristiques de la communauté. Donc, on dit aussi dans ce programme de français que la langue ne peut être dissociée des aspects socioculturels qui caractérisent et organisent toute situation de communication. Donc, on est un peu plus proche de l'intégration, mais c'est aussi encore une association plutôt qu'une de relations consubstantielles. Donc, l'analyse des quatre programmes d'une façon comparative permet de dire qu'il y a donc une dimension de langue et culture, ce « et », on passe la juxtaposition à une association. Langue avec donc, culture, on reconnaît aussi qu'il y a donc un rapport indissociable, mais c'est surtout une intégration dichotomique. Et du côté, donc, le concept de langue-culture, une orientation plus consubstantielle, pratiquement, donc elle n'existe pas dans, comme définition, comme traitement dans les programmes. Il est évident qu'ici, on a pour référence le concept didactique de langue et culture, qui est pour base la définition de Galisson, ça veut dire le principe de la consubstantialité des deux composantes. La composante culture... excusez-moi pour ne pas perdre de temps. Je passe un... Donc, il s'agit d'un ensemble d'un côté de savoir et savoir-faire, savoir-être, savoir-agir, savoir... Enfin... donc, la vision, le programme a pour base surtout une vision encore au niveau du discours d'intégration, mais dans la pratique, c'est une vision dissociative. On part du général vers le particulier. Donc, c'est surtout une base de culture de vision et non pas d'intégration, d'action, d'agir. Bien qu'il y ait un discours de relation et de réciprocité. On a, par rapport au cadre européen commun de référence, l'approche actionnelle. Il est vrai, les programmes reconnaissent l'approche actionnelle comme référentielle. On définit les apprenants, les usagers, comme des acteurs sociaux qui doivent interagir dans des circonstances, des environnements, dans des domaines d'action concret. Donc, tous les programmes reconnaissent cette vision, ils partagent le cadre, du moins en termes de déclaration. Mais quand on essaie de voir si les programmes font une conjugaison, une intégration des dimensions de culture-vision, culture-action, on vérifie que l'implicite n'est pas travaillé ou n'est pas reconnu. Il y a un discours, mais après, l'organisation des contenus, si vous voulez, ne correspond pas à cette vision. Donc, cette capacité de pouvoir agir avec les autres dans une langue culture, qui n'est pas la sienne, mais dans d'autres langues culture, existe en termes de discours, mais pas en termes, après, d'organisation. Donc, les programmes ont surtout une base de cadre de référence, mais pas de domaine de référence. C'est-à-dire qu'il y a surtout des images, des représentations, des savoirs, c'est ça la culture, Mais le savoir-faire, le savoir-agir, le savoir-être, le savoir-être avec, du point de vue actionnel, est plutôt absent. Donc on est surtout sur un monde où on informe, où on donne une certaine vision du monde et non pas une action liée à cette vision. Bien sûr, les programmes S6, il y a toujours une relation entre les deux, mais on revient toujours, on met l'accent du côté gauche et non pas du côté droit ici. En termes, donc, les programmes, en termes de finalité, les programmes partagent la même finalité, c'est-à-dire favoriser le développement de la conscience, de l'identité linguistique et culturelle à travers la confrontation à la langue étrangère et aux cultures véhiculées par cette langue. Donc c'est surtout une perspective plutôt métaculturelle entre la langue source et la langue cible, en fonction bien sûr du programme. Au niveau des objectifs, on vérifie par exemple qu'il y a donc la promotion, l'approfondissement, l'interprétation et l'interaction des cultures en termes de savoir, en termes de connaissances, plutôt qu'en termes donc d'action, surtout d'action langagière et non seulement d'action langagière. Donc c'est surtout donc une question de vision, de compréhension, d'acceptation, de connaissance, de contenu, d'ouverture éventuellement, de respect, de tolérance. Mais la dimension agir avec, n'est-ce pas, avec ce qui est identique, ce qui n'est pas identique, ce qui est conflictuel ou non, n'est pas présente. Donc le concept interculturel dans les programmes, celui d'allemand par exemple, on parle surtout de consciencialisation interculturelle, de compétences interculturelles qui permettent exactement d'établir des ponts, des relations de tolérance, de compréhension. Le programme d'espagnol dit que l'approche interculturelle permet le dialogue intra- et interculturel, c'est surtout favoriser le respect des autres. Le français défend ou présente une perspective interculturelle de façon à renforcer ce qu'on appelle l'identité linguistique, culturelle et l'éducation à la citoyenneté, mais c'est surtout par la compréhension et la tolérance des différences. Donc on passe un peu sous silence l'aspect conflictuel, contradictoire, ce qui n'est pas convergent. L'anglais dit qu'il s'agit de développer les capacités de communication interculturelle par rapport, mais bien sûr, à la culture britannique surtout. Donc, les concepts que nous avons dans les programmes, au lieu d'établir un point d'équilibre entre vision et action, n'est-ce pas, présentent surtout une perspective où on évolue depuis une vingtaine d'années entre le parler sur, le parler avec, le agir sur, vivre avec et agir avec actuellement. Donc, le programme se trouve moins du côté, enfin, par rapport au passé, du côté vision. On chemine vers cet équilibre, vers l'action, mais très, très, très lentement et très timidement, surtout à partir des discours. Donc, les quatre programmes de langue ont surtout une base interculturelle qui revient à la conception de représentation et pas forcément cette vision interculturelle d'agir avec, qui revient au concept, notamment de Christian Puren, du co-culturel, ça veut dire d'agir avec ce qui était identique, ce qui est différent. Donc, en termes de conclusion, ce qu'on peut voir, c'est que dans les programmes de langue, c'est surtout la culture, la langue culture vision étrangère, une perspective vision basée sur les images, sur les représentations, sur le savoir qui est présente. Il y a un discours qui dit oui, il faut bien sûr aussi la langue culture action, mais après la structuration des programmes revient de nouveau au contenu plutôt de vision. Donc, si vous voulez, pour essayer de situer finalement l'ensemble des programmes, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, les programmes développent surtout, et on voit ça après dans les manuels scolaires, se parler avec, c'est agir avec, donc une vision interculturelle plutôt de représentation. On parle, on dit qu'il faut aller dans le sens donc de l'action, du co-culturel, mais, c'est le discours. Donc, si on est passé d'une vision purement déductive, on vit actuellement une perspective inductive, entre la vision, éventuellement, si on a bien compris, c'est la vision transductive proposée par M. de Morgon, cette idée de faire non simplement fonctionner ce qui est identique, ce qui est acceptable, mais aussi de faire travailler ce qui est conflictuel et qui donne, dans une vision systémique globale, l'émergence d'une autre réalité, donc où le tout ne se limite pas à être une addition de parties différentes, mais une nouvelle réalité. Donc, cette vision dans les programmes n'est pas encore présente. Il y a quelques points, quelques discours qui pointent, mais après, toute la structuration se maintient sur la base encore de l'interculturel comme une perspective invictive d'image, de représentation, et surtout dans une vision de ce qu'il faut, c'est la tolérance, c'est respecter, pas forcément agir avec. Voilà.
Un grand merci pour le respect de l'horaire, c'est... Jacques, je dois dire que je suis impressionné, parce que vraiment là, d'ailleurs je te demanderai ce texte, parce qu'il y a vraiment une synthèse avec en plus les bifurcations des différentes sociétés et nations, puisque tu traites de l'Espagne, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, et je crois qu'il y a beaucoup de clarté dans ce qui a été dit là. J'ai pas d'objection à proprement parler à faire, sauf que tu laisses quand même en suspens les agencements interculturels, transculturels, multiculturels, métaculturels. Bon, ce point n'est pas pour le moment travaillé dans la modélisation, c'est tout. C'est pas une critique, c'est une remarque.
Apparaissent séparés, même s'il y a au départ la perspective unique et les lignes générales des programmes à partir de la définition même d'approche actionnelle qui existe dans le cadre européen de préférence, mais il est vrai que la perspective, c'est une perspective segmentée, la perspective des programmes, c'est pas, même si on parle de la conception plurilingue, finalement, ce que l'on retrouve dans les programmes, ce sont des conceptions séparées et on ne se rend pas compte des possibilités, soit au plan thématique, soit au plan social, soit même au plan méthodologique, de la convergence et des cohérences qui peut exister s'il y a une démarche qui est plutôt de type plurilingue, pluriméthodologique, et pas seulement à ce niveau, puisque les programmes ont été construits par des équipes, et les équipes au départ ont travaillé ensemble, mais ensuite elles vont dû se séparer parce que les approches et les didactiques des différentes disciplines, des didactiques scolaires des différentes disciplines obéissent à des principes différents. Donc ça, c'est un axe de réponse.
Et rapidement, simplement, c'est vrai parce que les programmes... on peut voir une vision économique comme intraculturelle, interculturelle. Donc les différences de processus métaculturels, etc., sont passées sous silence. Même si dans la bibliographie, il y a des indications de texte, la synthèse au niveau du texte, même des instructions officielles, c'est une vision assez simpliste peut-être. Donc la perspective traditionnelle, intraculturel, l'étranger qui apprend la langue et la culture du pays de référence. Et après, il y a ce discours interculturel, donc respect, tolérance, mais on ne fait pas la division de différentes phases, différents niveaux de complexité. Donc ceci est passé sous silence. Et après, dans les manuels, n'est-ce pas, en termes de prolongement, c'est un autre travail qu'on est en train ensuite de faire, on vérifie que c'est la même chose. C'est-à-dire, même s'il y a un programme, même si les introductions des manuels disent qu'il y a une perspective, c'est le cadre de référence, l'approche actionnelle, agir avec, etc., on se maintient de nouveau, comprendre les images, le respect, la tolérance. Il n'y a pas de construction ensemble d'une nouvelle réalité partagée, finalement.
C'est-à-dire que l'action...
Madame pose la question de savoir s'il n'y a pas une contradiction entre le fait qu'on produit un manuel, oui, et l'approche actionnelle. C'est vrai que l'action, elle ne se tient pas très souvent, moi je suis auteur de manuel, moi aussi.
J'ai
été auteur de manuel. Donc c'est vrai que c'est pas évident d'introduire l'action à l'intérieur de la lecture. Donc,
exactement.
Mais quand on introduit les projets, et là, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, c'est une dimension qui est très exploitée dans les programmes d'anglais, par exemple.
Oui.
Quand on introduit les projets, ce sont des projets beaucoup plus organisés que les activités qui sont proposées et qui sont considérées comme actions, par exemple, dans les manuels qui déclinent l'action, l'approche actionnelle en français. L'action en français, c'est trouver une information sur une page, sur un site web, par exemple. Ça, c'est un projet en français. Par exemple, les examens d'anglais sont construits autour toute l'activité, tout le projet qui doit être fait, par exemple, mené dans le cadre des examens pendant une heure et demie, par exemple. Il y a une cohérence au niveau de ce qu'on demande et de ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'on suggère des choses à l'intérieur des manuels et surtout, on ouvre les portes. C'est ce qu'on peut faire, de mon point de vue, en tant qu'auteur de manuel, c'est ouvrir des portes pour que les gens fassent ailleurs et aillent trouver d'autres espaces d'apprentissage.
Oui,
et là, je passe à un autre sujet d'intérêt, c'est d'autres espaces d'apprentissage. On peut faire vraiment avec la langue, mais si on ouvre des portes, si on donne des pistes, si les auteurs donnent des pistes, pour que les gens sortent de la classe et trouvent l'action à l'extérieur même des pages du manuel et à l'extérieur de l'école, notamment sur les sites web où on peut effectivement se promener et découvrir d'autres choses, sortir de l'école.
Sur la question du manuel, je crois qu'il y a un changement culturel que les éditeurs n'ont pas encore opéré, et beaucoup d'auteurs de manuels, qui est véritablement une rupture culturelle. C'est-à-dire qu'il faut modifier le statut du document authentique dans le manuel. Jusqu'à présent, le document authentique est à la fois la source des faits culturels qui vont être travaillés, induits, travaillés, et en même temps, ce sont des modèles de langue. Et donc, il y a un poids de la modélisation du document, et alors que justement, dans une logique de projet, dans une logique actionnelle, les actants, ceux qui agissent, vont justement agir en allant chercher eux-mêmes les documents, en allant les modifier, en allant les traiter, faire de la gestion d'informations. Et donc là, les éditeurs sont complètement pris à contre-pied. Et je crois que les manuels devraient maintenant, enfin, dans les pays en tout cas, où les élèves ont accès aux documents, parce que voilà, là aussi, il y a une autre rupture, une rupture culturelle qui va s'installer maintenant en termes de didactique entre les systèmes scolaires où les élèves ont effectivement accès eux-mêmes à des documents et les systèmes scolaires où les élèves vont continuer à dépendre du manuel pour les documents. On est dans deux configurations complètement différentes qui ne peuvent pas être traitées par le même type de dispositif de manuel. J'aurais deux petites questions à poser à mes collègues. J'ai l'impression, enfin, ce qui se passe en France au niveau des instructions officielles actuellement, c'est qu'il y a effectivement, il y a une tension, à partir du cadre européen commun de référence, il y a de nouveau une pression très forte au niveau ministériel pour qu'il y ait des instructions communes. Ce qui se passe, c'est que on fait la partie commune, effectivement, mais cette partie commune se fait à minima, c'est-à-dire c'est le plus petit dénominateur commun des différentes traditions didactiques, des différentes langues qui s'imposent. D'où peut-être cet aspect extrêmement rhétorique des grandes déclarations qui correspondent aux orientations ministérielles. Mais par ailleurs, il n'y a pas d'implémentation de l'innovation, tout simplement parce que les traditions didactiques n'en sont pas au même niveau d'évolution didactique. Et ensuite, lorsqu'il y a des textes, en France, il y a des textes d'accompagnement, chaque tradition didactique la récupère ses billes, comme on dit, de manière familière, hein, et on trouve en fait, on retrouve la juxtaposition et la décantation historique à laquelle sont arrivées chacune des traditions didactiques. Est-ce que la même analyse vaudrait pour les instructions de portugais aussi ? D'accord. Et la deuxième question que je voulais poser, c'était à propos de la conception du comparatisme. Mais moi, c'est une question que je me pose aussi, que j'aurais posé à Jacques de Morgon et aussi à tout le monde. Est-ce que le comparatisme, est-ce que la comparaison entre la culture, c'est un grand classique, ça, de la même façon qu'on fait la comparaison linguistique entre la grammaire de la langue et la grammaire de la langue maternelle de l'élève et la grammaire étrangère, on a toujours fait aussi du comparatisme culturel. Donc on fait comparer les faits culturels étrangers avec les faits culturels de la culture des élèves, ce qui est une grande occasion de prise de parole. Est-ce que ce comparatisme est présenté comme de l'interculturel? C'est très fréquent en France, alors que pour moi, dans ma typologie, c'est du métaculturel. Ou est-ce que, troisième interprétation, est-ce que c'est un couplage entre le métaculturel et l'interculturel? Est-ce que c'est un moment de contact Il y a deux types d'inclusion du métaculturel dans l'interculturel, soit une inclusion immédiate, c'est-à-dire on compare directement des connaissances, soit il y a effectivement contact interculturel, apparition de représentations nouvelles qui vont être ensuite verbalisées par les élèves. C'est-à-dire qu'on passe forcément en classe de langue. Le poids du métaculturel en classe de langue, ça vient tout simplement du poids du langage. On fait travailler la langue aussi, donc on va favoriser forcément tout ce qui est de l'ordre de la verbalisation. C'est ce qui explique historiquement, à mon avis, le poids du métaculturel dont on a du mal à se débarrasser. Plus la question de l'évaluation de ce qui n'est pas justement métaculturel, de ce qui n'est pas de l'ordre des connaissances. Dès qu'on va au-delà du domaine des connaissances culturelles, ben on ne sait pas évaluer. Donc forcément, il y a une très grande réticence des enseignants et des institutions à mettre en œuvre des traditions différentes. Il faudrait que les ministères de l'éducation prennent conscience que le fait qu'il y ait des traditions didactiques actuellement différentes d'une langue à l'autre dans tous les pays peut être justement une chance de remettre en complexité, en récursivité, et que chaque tradition didactique, en fait, soit une occasion d'enrichissement des autres traditions, et non pas une occasion de retrouver la particularisation derrière un discours généralisant.
En réalité, c'est ça ce qu'on fait réellement. C'est-à-dire, quand on apprend. L'idée, c'est que. L'idée globale au Portugal, c'est que l'apprentissage des langues étrangères a une valeur très positive par rapport au discours officiel, qui est celui de la tolérance. Donc, on doit prendre conscience à travers. Donc, c'est ça, n'est-ce pas, les programmes ont cette idée. En entrant en contact avec une langue étrangère, avec la culture de la langue du pays éventuellement de référence, parce que, qu'on veuille ou non, pour le français c'est la France, pour l'Angleterre, pour l'anglais c'est l'Angleterre. Donc il y a cette idée de bien connaître ce qui se passe dans cette langue, dans ce pays, pour pouvoir mieux comprendre notre langue et notre pays. Et voir, parce qu'il y a un petit peu cet aspect au Portugal, c'est-à-dire ces pays généralement sont plus avancés que le Portugal. Donc, ce n'est pas comme il y a 20 ou 30 ans, une admiration totale et parfaite, parce que c'était plus avancé, mais cette vision donc métaculturelle, qui se limite simplement à une reconnaissance, et qui n'est pas un vrai rapport interculturel de ce qui est identique, plus ou moins semblable, ce qui est différent, et qui provoque aussi une réaction, une difficulté de compréhension et d'action ensemble, n'est-ce pas, n'existe pas dans les programmes, et les manuels après ne sont pas conséquents non plus. Donc si j'ai bien compris votre question, c'est de ce niveau. La première question, je ne sais pas si vous voulez...
La première question, c'est un peu sur la conception séparée des didactiques traditionnelles. Oui, la partie commune, c'est une déclinaison rapide du cadre européen de référence. On part vraiment du cadre européen commun de référence, on part de la définition même d'approche actionnelle, on part de la définition de compétences plurilingues, mais après, on a toujours tendance à tomber soit dans le pittoresque, je ne dirais pas que c'est du méta-culturel, je dirais que très souvent, ce sont des approches pittoresques que l'on reprend et qui sont toujours dans les traditions pédagogiques des différentes langues. Vision pittoresque, vision des représentations stéréotypées, etc., je ne suis pas très sûre que cette tendance soit mauvaise, en tout cas, comme une étape de réflexion et qui pourra mener à une perspective métaculturelle. Mais je crois que le plus souvent, c'est vraiment une vision plutôt pittoresque que plutôt méta. Je crois qu'il n'y a pas de réflexion suffisante en ce qui concerne cette dimension.
L'insolite a toujours été un grand facteur de motivation à l'appui de
oui.
Les élèves.
Oui.
C'est très difficile d'éviter l'insolite.
Et je ne sais pas s'il faut l'éviter, hein, d'ailleurs. Alors, c'est un niveau... Au niveau scolaire, c'est l'anglais qui est... C'est l'anglais. C'était le français, donc, il y a quelques années. Tout le monde apprenait, si vous parlez dans la rue avec des gens qui ont 30 ans, à partir de 30 ans, tout le monde comprend le français et vous répond en français correctement. Maintenant, avec nos étudiants, c'est un tout petit peu plus compliqué. Et dans l'école, l'espagnol devient la deuxième langue étrangère. C'est peut-être le poids de la didactique du français au Portugal. La présence de la didactique, la présence politique, disons en termes politiques, développement de la France, il y a quelques années, il y avait une forte présence de la didactique dans les institutions, dans la politique officielle de la France. Et je crois que c'est cette politique officielle qui a notamment centré son action pour la formation des enseignants dans plusieurs années. Je crois que c'est ce poids qui reste encore et qui permet que les approches du français soient plus proches peut-être des travaux des didacticiens qui sont bien connus au Portugal plutôt que les didacticiens anglais, puisque la perspective anglaise était un tout petit peu différente de politique linguistique. Maintenant, ça change, mais malheureusement...
Merci beaucoup, encore une fois.